Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Double Slash. Bonjour les devs. Double Slash, le podcast indépendant où on parle de développement web et maintenant d'IA aussi parce que c'est obligatoire. Et comme d'habitude, nous sommes avec Alex. Salut Alex.
Salut Patrick, salut tout le monde.
Bon, on va commencer, chose très importante, par remercier les sponsors parce que en début d'année, là, on a eu. Alors, c'est peut-être des bonnes résolutions, je ne sais pas. Mais on a eu pas mal de dons, de sponsors, et c'est vraiment généreux. Voilà, on a Clem, on a certains qui sont privés, donc on ne va pas donner les noms, enfin les pseudos, mais on a Clem, on a Sylvain, on en a plus, voilà. Donc on a aujourd'hui 15 sponsors, c'est énorme, on est super contents, super, joyeux.
Exactement, on est super contents et vraiment, on vous remercie. C'est de manière vraiment spontanée que ça se fait. Et donc, ça nous touche encore plus et ça nous incite encore plus à rester dans le match, même si on n'avait pas prévu de s'arrêter. La suite, évidemment, des épisodes. On peut aussi annoncer qu'on va faire, on va refaire des workshops. On voudrait bien. Le temps nous est toujours limité parce qu'on est toujours en activité. On ne fait pas ça. Ce n'est pas notre activité principale, le podcast. Non. On est développeur. On travaille avec des clients et donc on a une charge de travail qui est déjà assez conséquente à côté. Mais on continue à faire notre veille et on la partage avec vous. Aujourd'hui, on va parler de plein de sujets, évidemment. On va parler de JavaScript, ouais. de Denode, d'Express, de Nest, d'Angular, d'Astro, de Pinia, de React App. On ira aussi faire un petit tour sur des snippets qui nous permettent d'aller beaucoup plus rapidement. Une fusion entre du PHP et du Vue. Je n'ai pas vu cette info et Patrick m'a interdit d'aller la voir. Des outils aussi qui nous permettent de faire des scans hallucinants, hyper, hyper rapides. Évidemment, de l'IA avec de l'inférence et de Mistral, tout ça. On attaque, Patrick?
Yes, parti. Alors, c'est Deno, en fait. Pour la petite histoire, on a déjà parlé, c'est Deno qui avait lancé une pétition pour demander à Oracle à qui appartient légalement le nom JavaScript. Comme ils n'en font rien du tout, en fait, ils ont demandé à Oracle de libérer JavaScript, donc c'est free JavaScript. Et il se trouve que, en fait, le schéma là qu'on a, alors pour ceux qui regardent la vidéo, qui représente à peu près comment fonctionne Oracle. En fait, d'un côté, t'as les engineers qui sont tout petits, ils sont pas beaucoup, et t'as un gros bloc, c'est le légal en fait, pour représenter en fait Oracle d'après Deno. En gros, c'est une boîte où c'est beaucoup de légal, d'avocats, etc. Et pour l'instant, au lieu de tout simplement libérer JavaScript parce qu'ils en font rien du tout, ils jouent la montre, etc. Donc ça traîne. Et donc ils ont refait un article sur Deno pour réexpliquer que Oracle ne veut toujours pas lâcher JavaScript. Et surtout joue la montre et répond pas clairement aux questions, à la pétition, etc. Donc voilà.
Triste, c'est triste parce que c'est encore un gros acteur qui en plus fait de la rétention, mais ils vont rien faire de cette marque pure, quoi. Donc la libérer et la donner à une sorte de fondation, une organisation qui pourrait la faire évoluer. Node.js, quoi. Et donc c'est un peu triste, mais bon, quand on a beaucoup d'argent, quand on a un service juridique qui est énorme,
d'avocats.
on est très loin de nous de notre réalité de terrain où on veut juste créer des choses, quoi. Triste, triste, triste. Allez, parle de Express 5. Moi, quand j'ai vu ça, j'ai dit quoi, Express? Mais ça existe encore, Express? Je suis un peu taquin, mais dis-nous.
Ça existe encore. Ça existe encore et c'est encore beaucoup utilisé, malgré ce qu'on dise à tout le monde. Arrêtez de l'utiliser, quoi. Arrêtez d'utiliser. Utilisez Nitro. Nitro qui est vraiment simple, facile et qui, voilà. On a déjà fait un workshop d'ailleurs sur Nitro.
Exactement.
Et on avait aussi, Et puis on a un article aussi sur le site du podcast où on donne des alternatives à ExpressJS. Et il y en a pas mal. Il y en a pas mal. ExpressJS, il a été en 2024. Express 5, il a été sorti en 2024, donc l'année dernière. Donc il y a quelques changements et Nest en fait vient de sortir une nouvelle release où, bah, en fait, officiellement, par défaut, c'est Express 5. Donc, il y a cet article qui explique en fait comment il y a des breaking changes par rapport à Express et donc comment, voilà, les différences, etc. Donc, c'est intéressant, ne serait-ce que pour voir en fait les nouveautés dans Express, la gestion des erreurs, etc. Puisqu'avant, par exemple, si tu descends un petit peu, tu verras qu'à un moment donné, il y a une gestion des erreurs. Avant, quand tu avais une erreur au niveau d'une route, ça te plantait complètement le serveur. Et là, ça a changé. En fait, maintenant, ça ne plante plus de serveur. Ça a une exception. Et puis, donc, meilleure gestion des erreurs. Voilà, il y a des différences entre Express 4 et Express 5. Donc, c'est assez intéressant parce qu'on voit aussi les évolutions. On voit que ça a évolué. Et pour ceux qui souhaiteraient passer à Express 5 qui sont en 4, bah, ça donne aussi des infos sur ce qu'il faut changer. Donc, c'est plutôt pas mal. Comme article.
Ah, ouais, carrément. Après, on le redit, on insiste peut-être un peu lourdement, mais si vous avez un nouveau projet, ne partez pas sur Express. Par contre, si vous avez de la legacy et vous êtes obligé de maintenir en fait Express, ok, peut-être que là, ça vaut le coup de se pencher sur cet article-là pour justement voir en fait comment on peut faire une migration pour éviter d'avoir une grosse dette tech. Et avoir un vieux nanar qui tourne. Après, on n'a pas toujours le choix de faire les évolutions et tout ça. Mais en tout cas, si vous pouvez faire les mises à jour, c'est toujours mieux. Et si vous partez sur un nouveau projet, oubliez Express, essayez de prendre autre chose.
Et pour vous aider, il y a l'article sur le site du podcast.
Exactement. Toujours dans la série en fait des Honeypots, qui est une chaîne YouTube où on va retrouver en fait des documentaires sur l'historique ou la genèse du projet. On avait vu en fait React, on avait vu Vue, il y en a plein d'autres. Et là, c'est au tour de Angular qui nous sort en fait le petit documentaire qui fait une heure où on vient parler de la genèse du projet.
Moi, ouais, c'est ça, ouais, c'est classique. Comment ça a été créé, tout ça, les acteurs du début, donc Misco, etc. Tous les gens qui étaient dans le projet au début. Evan Yu, normalement, on devrait le voir aussi. Je n'ai pas regardé encore le documentaire, mais Evan Yu était au début sur Angular, tout ça. Donc voilà, c'est pas mal. J'aime bien ces documentaires, c'est assez cool. On apprend pas mal de choses, généralement.
C'est pour le coup, beaucoup d'interviews des personnes de l'écosystème, quoi.
Ouais, c'est ça, tous les gens qui ont contribué à Angular, qui maintenant sont ailleurs, sont sur d'autres technos. Mais ouais, il y avait eu Ruby aussi, je me souviens.
Oui, exact.
Avec les gars de Shopify qui... pour rappel, Shopify tourne sur Ruby. Mmh. Ruby on Rails.
Exactement. Donc voilà. pour tous les trolls. yes. Allez, on bascule sur la partie des nouvelles releases, des dernières sorties. Astro qui sort en 5.1 et qui vient en fait 5.2 et qui vient adopter Tailwind 4 qui est désormais en fait totalement sorti et officiel quoi.
Ouais, c'est surtout ça là. Donc c'est sorti le 30 janvier la 5.2, donc il y a une dizaine de jours. Et c'est surtout l'arrivée de la prise en charge de Tailwind 4. Donc voilà, puisque Tailwind 4 est sorti en début d'année, comme vous le savez, voilà, pour que si vous avez un projet en Astro, bah, ça permet de migrer. Alors j'ai déjà essayé deux fois, j'ai toujours pas réussi. Donc la troisième, c'est la bonne, je pense. Donc
on espère.
Ouais, c'est pas si simple en fait, mais. Bon, on va y arriver.
Ouais, normalement, ça devrait se mettre en place. Après, voilà, c'est OK s'il y a une migration et c'est trop compliqué, peut-être attendre qu'il y ait des outils de migration et qu'ils soient faits. Après, sur des nouveaux projets, bon, maintenant, on part
ouais,
sur du 4
direction
et
c'est
beaucoup 4. Plus simple, quoi.
Après, c'est pas grave, hein, parce que la version 3 est de toute façon très bien. Donc, au pire, si tu restes sur la 3, c'est pas catastrophique. Il y a eu un commentaire, je crois, sur le dernier épisode, je crois. Comme quoi, quelqu'un qui avait fait la migration et qui disait « Oui, c'est bien, la config, tout ça, CSS, tout ça, c'est plus clair, plus simple et tout. » Après, la régénération quand tu codes, là, le
hot module. Le just-in-time. Ah, le
just in time là, ouais. Il a dit la vitesse c'est pas pour ça que c'est pas phénoménal.
Ça ne justifie en rien une migration qui peut coûter du temps, de l'énergie pour gagner quelques millisecondes sur du dev. Juste sur la partie dev, bon, ouais, c'est pas ça ne justifie. Après,
donc,
il y a.
Ouais. C'est pas grave de rester sur la 3, quoi. C'est, en tout cas, pour l'instant, quoi. Il n'y a pas de honte.
Et 2-3 aussi expérimental features qui sont mis. On ouais. voit aussi que le format des front-metteurs en Toml dans le Markdown est supporté pour les personnes qui veulent plutôt utiliser ça. Bon, ok.
Ouais, il y a 2-3 trucs. Il n'y a pas des trucs que ce n'est pas transcendant. Hein. C'est surtout TWin4 qui est la prise en charge. Mais après, ce n'est pas transcendant. Mais voilà, on peut désactiver le React Streaming pour le CSS InJS qui ne prend pas bien, qui fonctionne pas bien avec tout ça. Donc voilà, c'est des petits trucs par-ci par-là. De toute façon, là, je crois que j'ai lu ce matin qu'ils allaient sortir une release maintenant Astro tous les 15 jours, je crois.
Donc, ah ouais, donc ça va. Donc en fait, ça va minimiser les. Ouais, ils rentrent dans la version un peu sémantique où ils font des plus de releases pour justement limiter les frictions sur les montées en gamme. Enfin, pas les montées en gamme, mais les montées de version. Pour que ça soit de plus en plus facile, quoi.
Bah après, ça marche tellement bien que, qu'est-ce que tu veux qu'il y ait ? À un moment donné, il n'y a plus rien à rajouter, quoi.
Ouais, on est d'accord. Allez, nouvelle version aussi, par contre, cette fois-ci, en bêta d'un prestataire majeur dans le e-commerce français, PrestaShop. Il est beaucoup utilisé ici en France. Beaucoup d'agences utilisent PrestaShop. Mmh. Il sort en version 9. Par contre,
bêta.
Exactement. Ce n'est pas une version qu'on peut déposer. Enfin, vous pouvez le faire, mais ça risque d'être un peu compliqué. Ça reste.
Non, ils disent
bêta.
De pas le mettre en prod, surtout pas.
Bien sûr.
En gros, ne faites pas ça.
Ne faites pas ça en prod. Pour le coup, toi qui es plus dans l'écosystème PHP, est-ce que tu as vu des grosses améliorations?
En fait, alors ils ont sorti cette version bêta là il y a cette semaine, hein, donc c'est tout neuf et ils la sortent en donc cette première version bêta pour demander à la communauté de tester en fait et de faire des retours pour tout ce qui peut bugger qu'ils n'auraient pas vu quoi par exemple. Mm-hmm. Les grosses nouveautés c'est la migration sur Symfony 6.4 donc qui est la dernière version qui sera supportée jusqu'à 2020. Enfin pardon, la dernière version de Symfony c'est la 7 actuellement 7.2 je crois. Mais la 6.4 est en long terme support, donc jusqu'en novembre 2027. Donc là, ils sont passés sur la 6.4, ils sont tranquilles pour un petit moment. Et le support de PHP 8.4, voilà. Donc on est vraiment dans tout ce qui est récent au niveau de PHP. Donc je rappelle que Symfony, maintenant, c'est au cœur de PrestaShop. Pas en majorité, mais il y a pas mal. Ils ont fait une migration qui était assez compliquée à un moment donné. Puis petit à petit, ils rajoutent des briques, donc c'est pas mal. Ensuite, il y a l'arrivée de l'API plateforme. Moi, je veux bien que tu me repartages ce que j'ai pas tout en tête. L'arrivée de l'API plateforme, en fait, au niveau du cœur aussi, qui va permettre de mieux communiquer avec l'admin. Donc, tout ce qui est, de ce que je comprends, c'est que tout ce qui est application externe, service externe, tout ça, pour se connecter avec l'admin et gérer les commandes, etc. Tu vois. Donc, une API où tu vas pouvoir communiquer facilement avec l'admin, tout ça, machin. Donc, c'est basé sur API Platform, qui est un système robuste, open source, qui est français, et qui fonctionne sur Symfony. Donc, voilà. Et moi, ce que je. Première réaction, alors après, il y a d'autres trucs, hein, mais il y a un nouveau thème, tout ça, machin, qui est un peu plus moderne. Avec Bootstrap 5, etc., un système de build plus moderne, etc. Donc voilà, moi ce que je me suis dit en voyant ça, je me suis dit, bah ah, cool, le headless arrive, et ben non, toujours pas. C'est une grosse déception. Un spécialiste sur Twitter de PrestaShop, un mec qui est un des meilleurs, je pense, en France, hein, qui gère PrestaShop, et m'a dit non, c'est pas pour de suite. C'est vrai qu'avec API Platform, ça va faciliter les choses, etc. Mais c'est pas encore de suite, machin. Il y a toujours la gestion du checkout qui est compliquée, machin. Donc voilà. Malheureusement, bah, déception pour moi, en tout cas, de toujours pas avoir avec version 9 de PrestaShop d'une version headless possible. Donc,
ouais.
C'est dommage. Mais bon, j'espère que ça va arriver, en tout cas. Peut-être la version 10, mais.
Peut-être, on verra. Ce qui est sûr, c'est que on suivra cette actualité.
Ouais, disons que tout est passé en composable, headless, machin, là, leur truc marketing là, en e-commerce. Et c'est dommage que PrestaShop aujourd'hui soit toujours pas dans ce move, quoi. Mais bon, ouais. C'est pas si simple.
Ouais. Yes, Pinia. Pinia, qui est le stake management system de l'écosystème Vue, qui sort en version 3. Moi, ce que j'adore, c'est cette version n'a pas de nouvelles features. Merci, voilà. Terminé. Et juste ça.
C'est normal.
Mais
c'est normal. Parce qu'il n'y a rien. C'est tellement top comme il est. Qu'est-ce que tu peux changer ? Il n'y a rien à changer.
Bah oui, on est complètement d'accord. Et toi qui viens de l'écosystème React, tu as fait beaucoup d'applications React avec Redux, tout ça. Tu as découvert Pinia et là tu fais waouh, c'est vraiment
c'est simple. Depuis que j'ai découvert Pinia, j'ai arrêté React. Voilà, non, je déconne. Non, il y a un breaking change quand même.
Il y a quand même un breaking change, exact.
Avant, tu mettais ID avec l'ID du store et maintenant c'est directement en paramètres avant les options, machin, je sais pas quoi. Et c'est le seul truc, mais Pinia en fait, c'est tellement. C'est le store officiel de Vue Nuxt et c'est tellement simple à utiliser que quand tu l'utilises la première fois et qu'après tu retournes sur un système React, alors on en parlera un petit peu après, mais il y a tellement de state management, de Redux, tout ça, tous ceux qui ont utilisé Redux et tout savent à quel point ça peut être verbeux et compliqué que une fois que tu as utilisé Pinia, tu n'as plus envie d'y retourner quoi, et tu n'as plus envie de retourner sur Redux.
Bah ouais.
Et ça, les gens qui n'ont jamais utilisé du Pinia, ils ne comprennent pas en fait. Et voilà.
Moi, je pense qu'il faudrait juste tester un coup Vue pour pouvoir jouer avec Pinia et voir l'efficacité et l'efficience du truc, la simplicité. C'est juste hallucinant. C'est clair. En plus, il y a une DX qui est juste extraordinaire avec tous les dev tools, tout. C'est juste
le user store, tout ça, machin. Enfin, c'est juste magique quoi. Ça marche quoi. Juste ça marche. Voilà, comme on dit.
Pinia, ça marche. C'est facile, c'est magique. Allez tester parce que c'est juste trop, 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 trop bien. Allez, on va revenir sur React du coup. autre dépréciation, cette fois-ci officielle, tu nous l'avais déjà dit avant, où pour créer des nouvelles applis React, on avait le Create React App, et maintenant, ça y est, c'est fini, il faut arrêter de faire ça.
En fait, depuis 2 ans, normalement, il n'est plus maintenu. Mais ils se sont rendus compte tout simplement. Alors, Socket, c'est des trucs de sécurité, donc là, c'est vraiment une security news pour le coup. Ils se sont rendus compte qu'en fait, tout simplement, les gens continuaient à l'utiliser et que dans des vieux tutos, tout ça, machin, c'était recommandé. Donc, il y a toujours des gens qui utilisent le CRA, sauf que c'est plus maintenu, etc. Et puis, il y a un breaking change avec le React 19 où ça fonctionne plus. Je sais plus exactement pour quelle raison. Il y a un truc qui marche plus. Et donc là, officiellement, l'équipe React a dit c'est déprécié officiellement parce que pour que les gens arrêtent de l'utiliser. Donc maintenant, tu as un warning en fait quand tu vas l'installer et tu auras un warning comme quoi CRA est déprécié, arrêtez d'utiliser. Enfin, je ne sais pas exactement ce que ça va écrire. Mais voilà, donc si vous avez un projet prochainement à développer, n'utilisez pas CRA. Voilà, c'est ça le message en fait.
Bon, après, si au moins il y a un espèce de message qui vous dit « Ok, stop, arrête d'utiliser ça », c'est plutôt pas mal, quoi. Mais effectivement, quand tu vois, il y a taquet de tutos et de blog posts où ils annoncent ça. Et moi, je me pose la question aussi sur toute la génération aujourd'hui des posts de dev, des blog posts, des articles de blog qui sont générés avec l'IA, qui vont prendre en fait les anciens.
Ouais.
Et donc, j'ai peur qu'on ait encore du Create React App un petit peu sur la sortie.
Ah, c'est possible. Ouais.
Mais bon, après, ça sera à vous en fait de vraiment faire d'être plus vigilant. Et voilà.
Ouais, après on est sur le même truc que pour Express quoi, ExpressJS. Et on reste sur des vieux tutos machin qui vont dire utilise ExpressJS alors que il y a des solutions vachement mieux. Enfin voilà, et CRA c'est pareil, il y a des vieux tutos qui te disent React App, ça va super et tout. En fait non, avec VJS tu peux installer un projet en 2 secondes et ça marche 10 fois mieux, quasiment sans config. Voilà. Donc non, arrêtez avec CRA. Voilà. C'est la
moralité, continuez à vous documenter et à écouter Double Slash pour dire ok, attention là, mise à jour, c'est pas bon, il y a moyen de faire beaucoup mieux, beaucoup mieux. voilà la, la on va dire la morale qu'on pourrait garder de cette histoire. Allez, on passe sur la suite. On reste dans l'univers React avec c'est devenu le nanar national, on va dire le marronnier de toutes les technologies. Le State of React avec, on va dire, toutes les réponses d'un questionnaire qui a été envoyé à tous les développeurs React ou tous les développeurs React qui ont bien voulu en fait répondre à ce questionnaire.
7900 développeurs qui ont répondu.
Ouais. Ce qui est beaucoup, mais pas tant que ça en fait.
Non, pas tant que ça.
Sur l'écosystème, non, c'est React, c'est vraiment pas grand chose quoi.
Non, parce que c'est majoritairement utilisé React et donc ça fait il y a beaucoup plus que ça en développeurs qui utilisent. On voit qu'un remerciement à Sébastien Lorber, donc voilà, notre Sébastien national qui fait la newsletter This Week in React. Si je me trompe, je suis jamais sûr du nom de sa newsletter en fait.
Oui, je
la reçois toutes les semaines.
Je crois que c'est ça.
Mais désolé Sébastien, si je dis quoi. Et puis qui est contributeur aussi, core contributeur sur Docusaurus.
Voilà. Yes.
Donc,
qu'est-ce qu'on y voit là-dedans
cette année, pour 2024, pardon, parce que c'est celui de 2024, on est en 2025, il n'y a pas de gros changements en fait, au niveau des classements. La plupart des libs, il n'y a pas de grosses rentrées ou il y a de gros changements ou de chutes. Voilà. C'est vraiment, dans l'ensemble, ça reste assez stable, ce qui est plutôt surprenant. Et juste deux librairies qui ont fait, qui sont devenues populaires, c'est TanStack Query et The Stand. The Stand, en fait, c'est un système de gestion d'état, de state, state management, qui est un peu basé sur Redux, voilà, qui est plus simple, mais c'est un peu le même principe. Et,
est-ce qu'il est plus simple que Pinia encore ?
Non, ça ne pourra jamais. Ça ne sera jamais aussi simple que ça. Parce que c'est pas... Oui, enfin bref, on ne va pas rentrer dans la technique. Et TanStack Query qui prend des parts de marché, qui devient aussi pas mal utilisé, et sachant que TanStack a tout un système de librairie aujourd'hui, que ce soit... en fait, ils vont sortir TanStack Start, qui va être une sorte de Next.js, une sorte de framework.
Qui va gérer tout l'écosystème, les routes, les queries, les...
Ouais, enfin, tout en fait. C'est un peu un Next.js, mais différent. Et en fait, TanStack a tout un écosystème, le routeur, les queries. Donc voilà, il y a plein tout un écosystème qui va être regroupé dans TanStack Start, qui va être une sorte de framework. Sinon, à part ça, il n'y a vraiment pas de gros changements. Il y a des retours sur tout ce qu'ils utilisent. Il y a des perceptions positives, par exemple, sur... alors après, ça parlera aux développeurs React, mais Fragment, c'est le Fragment, les Use State, les Create Context, tout ça. Enfin, tous ces trucs natifs dans React.
OK. Dans l'ensemble. OK. Est-ce que ça vaut le coup d'y passer un petit peu de temps ou bien c'est sûr. Vraiment de la curiosité Et en fait, est-ce que toi, tu as découvert des nouveaux... ou des nouvelles non. librairies, des nouveaux... Bon, après, toi, tu es peut-être...
Non, pas
peut-être
cette année, parce
un peu
que...
plus, quoi.
Non, pas cette année, comme je te dis, il n'y a pas de... Voilà, de gros... Et puis, ça se stabilise pas mal. Donc, c'est... Par contre, c'est toujours intéressant de regarder ce genre de sondage. J'ai eu mal à trouver. Pour tout ce qui est gestionnaire d'état, tout ça, enfin, state management, tout ça, pour voir un peu ce qui est utilisé, et si sur un nouveau projet, sur quoi je pourrais partir par rapport à ce qui est utilisé le plus, etc. Donc on voit que de toute façon, quand tu vas dans les state management, tu as toujours Redux qui est ultra utilisé.
Ouais.
Et voilà, et après, il y a d'autres challengers. Mais dans l'ensemble, c'est, voilà, on a stabilisé tout l'écosystème React, donc les outils sont connus, fiables, etc. Je suis juste surpris d'un truc, c'est qu'il y a aussi Preact Signal qui permet quand même de faire une gestion d'état, un state management à la Pinia un petit peu simple, parce que c'est juste des signaux qui sont envoyés et ça fait des réactions. Et ils en parlent, enfin en tout cas, je ne crois pas qu'ils en parlent dans le truc. Donc,
après, est-ce que ça... Là, est-ce qu'on n'est pas sur un truc vraiment un peu hyper, hyper nouveau? Et donc, ok, c'est prometteur, mais est-ce que
ça va devenir
un standard pour toi?
Preact Signal, c'est stable et surtout, c'est framework agnostique. Donc, il n'y a pas de... C'est pas lié à Preact ou React, en fait. Donc, tu peux l'utiliser partout. Et tu peux faire des systèmes de state assez faciles avec ça. C'est hyper light en plus. Donc, il ne faut pas le négliger, ce petit truc, quand tu as un state à gérer dans une petite application, tout ça. Regardez Preact Signal, c'est assez intéressant.
Nice, cool, cool, cool. Allez, on déroule sur un petit outil qui est sorti sur les pour les développeurs Nuxt et Vue.js. Ouais. C'est une sorte de librairie où on a plein de petits snippets qu'on va pouvoir injecter soit dans VS Code, soit dans React, dans Recast, je crois, c'est ça ?
Ouais, c'est ça. C'est inspiré de Recast, ouais.
Ouais. Et ce qui va nous permettre en fait de pouvoir injecter des bouts de code directement. Je pense des snippets pour faire le SEO, aussi bien le title, la description, les images ou toutes les choses comme ça. On va pouvoir injecter directement tout le bon code. Et donc ça peut nous faire gagner du temps. Une fois, comme souvent sur ce genre de feature, c'est bien. Par contre, il faut bien mémoriser ces snippets, c'est-à-dire le déclenchement, c'est-à-dire point d'exclamation comp. Voilà, ça va sortir tel bout de code. C'est intéressant, mais je pense qu'il faut vraiment passer beaucoup de temps à générer beaucoup de composants pour tirer bénéfice en fait de ces tools-là. Donc, intéressant. Quand même, si vous êtes fan de Nuxt et Vue comme je suis, je pense qu'il y a possibilité en fait de vraiment gagner du temps. Voilà, sur des choses hyper simples, mais voilà, on fait un endpoint, on vient générer un petit snippet pour en fait donner le serveur handler. Voilà, on a notre fonction qui est déjà codée tout. Et donc ça nous fait gagner beaucoup de temps. Perso, moi j'ai déjà fait ça avec mes propres snippets dans VS Code. Donc là, que ça soit un peu open source ou en tout cas que le catalogue soit mis à la disposition de tout le monde, c'est plutôt intéressant. Et je crois que ils ont facilité le système pour faire une PR classique, pour venir rajouter. Et voilà, si vous avez déjà des choses intéressantes. Après, c'est comme tout. Hein. Si c'est quelque chose qu'on utilise souvent, ça vaut le coup. Si on crée un snippet pour l'utiliser deux fois dans l'année, clairement, voilà, c'est peut-être pas justifié, quoi.
Ouais, alors déjà, tu peux modifier les. Tu vois, en haut, tu as le bouton modifier. Donc, tu peux modifier justement le point d'exclamation que tu voudras pour lancer le snippet. Et en fait, c'est inspiré du même système de snippet pour Recast. Donc, en fait, quand tu cliques là sur. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait le test hier. Quand tu cliques sur le copier-coller, là, le petit rectangle, enfin, le carré en haut, là.
Ouais.
Ça t'ouvre Recast normalement. Non, ça marche pas, toi. Ah, voilà. Et tu peux l'ajouter directement dans Recast. En fait, tu as juste à faire ça.
Ah, ok. Ok.
C'est pas mal.
Ouais, sauf que moi, le gros avantage, regarde, si tu veux si tu as plusieurs ordinateurs et que tu as Recast sur plusieurs ordinateurs, la synchronisation de ta config Recast, elle est payante.
Ah, bah oui.
Voilà. C'est normal. Donc, si tu mets la même chose, mais dans tes snippets de VS Code, la synchronisation de tes snippets et de ta config sur VS Code, elle est gratuite.
Oui, de toute façon, après, ça n'empêche pas de l'utiliser. En fait, c'est quelque chose qui est souvent, et même moi, je parle pour moi aussi, les snippets, c'est quelque chose qu'on néglige souvent, enfin en tout cas je le néglige des fois.
Bien sûr.
Et ça peut faire gagner beaucoup de temps parce qu'on a l'idée de ce NuPets là, c'est de pas réécrire, en fait leur slogan c'est ne réécrivez pas deux fois le même code en fait. Et souvent on parle beaucoup d'IA de machin dans les éditeurs de code, mais les snippets c'est hyper puissant en fait parce que quand tu fais un langage, que tu sois du React ou du Vue, t'as tendance quand même à réécrire souvent la même chose, le script setup machin tout ça. Et avec des snippets, en fait, tu peux gagner beaucoup de temps en fait en tapant juste un raccourci, tac, ça te l'insère. Et au quotidien, voilà, c'est aussi performant que d'utiliser l'IA en fait, les snippets. Et on néglige beaucoup trop. Ouais. Et c'est facile aussi de l'utiliser, de rajouter dans VS Code, comme tu dis. Donc,
bah ouais.
Mais c'est un petit, comment dire, c'est une petite gymnastique mentale à faire régulièrement. Voilà, rajouter des snippets quand tu as l'impression. Bah, par exemple, au quotidien, tu te rends compte que bah tiens, cette fonction, je n'arrête pas de la réécrire tout le temps la même chose. Bah tiens, si je faisais un snippet comme ça, je gagnerais du temps tous les jours à part la réécrire. Tu vois.
Exactement. Voilà. Et pour le coup, tu vois, moi, je me suis fait un snippet sur mon départ de projet là où j'ai plusieurs stores et en fait, je veux vraiment avoir différents Pinya, des stores Pinya évidemment, mais différents stores pour vraiment chaque item, pour vraiment, voilà, pour bien que ça soit différencié et que ça soit hyper simple. Et donc, tu crées, je sais pas combien de stores, et donc tu crées ton snippet et tu as tout ton store qui est généré spécifiquement par rapport au nom que tu lui as donné et tout. Ouais. Ça te fait gagner un temps de maboule,
bah oui.
Et vraiment, vraiment. Et non. Surtout, c'est tout uniforme, c'est tout partout la même chose, donc c'est vraiment bien. Ouais.
Donc snippets, nuppets, et soit nuppets, soit même pour du React, tout ça. Essayez d'utiliser un peu plus les snippets dans VS Code, des trucs comme ça. Ça fait gagner du temps.
Allez, petit drama sur Twitter, qui est quand même la plateforme où il y a le plus de devs quand même. Et donc là, on a Fred Scott, je suis désolé si je viens écorcher son nom, qui est un des co-créateurs de Astro. Qui nous dit que c'est la merde pour faire juste des apps côté client, côté SPA.
C'est ça. Oh ouais, il a fait un tweet, c'était quand d'ailleurs ? Le 1er février. Donc, il dit ouais, Next.js, SvelteKit, Nuxt. Maintenant, tout le monde est parti sur un mix entre server-side et client-side. Et maintenant, on ne peut plus faire de SPA facilement, etc.
Et là,
dès que j'ai lu ça, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte, Nuxt? En fait, tu mets juste une ligne de config et tu passes en SPA. Et en fait, c'est exactement ce que tout le monde lui a répondu. Donc, il a eu des tonnes de réponses en disant, mais tu dis n'importe quoi, Nuxt, en une ligne de config, tu peux faire une SPA, il n'y a plus de serveur derrière. Pareil pour SvelteKit aussi, pareil, tu peux facilement passer sur une SPA avec une ligne de config. Donc, voilà. A priori, ils ne connaissaient pas bien les autres frameworks, je ne sais pas trop, mais apparemment, c'est le seul en fait, qui est vraiment dans ce cas cité, où c'est vraiment mélangé serveur-client, bah, c'est Next.js, ouais. Où vraiment, là, aujourd'hui, ça devient compliqué de faire une SPA, puisque tu as vraiment ce côté rendu serveur, etc., et tu ne peux plus faire une SPA simple, basique, et c'est là où tu dois passer sur un système vite, classique, avec un routeur, etc. Voilà, donc
moi ce que je garde, ouais, exactement, mais tu vois, moi ce que je garde en tête et ce que je comprends, c'est que au final, tu vois, sur Twitter, tu vas avoir un mec qui n'a pas spécialement fait ses recherches et qui dit pas une ineptie, mais un truc un peu faux. Et potentiellement, si ce mec-là, il est super influent, tout, il peut dire de la merde et propager de la merde, en fait, tu vois. Et donc, là, c'est bien que tout le monde l'ait corrigé, mais néanmoins, en fait, au départ, son poste était complètement à côté de la plaque, quoi, tu vois. D'où l'intérêt,
ouais, pourtant,
en fait, de vraiment connaître ta techno avant de
c'est ça, et pourtant, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un des co-créateurs
d'Astro.
D'Astro, donc pour moi, c'est quelqu'un de respectueux et tout. Là, je sais pas ce qui lui est passé par la tête. Il m'avait fait de réfléchir avant de cliquer sur tweeter. Mais...
Ouais.
Bon, bref, après, c'était bon enfant. Hein. C'était pas non plus des insultes, quoi. Ça restait correct. Hein. Viril, mais correct.
Allez, tu m'as vendu une espèce de PH, de mix entre du PHP et du Vue avec Aaron. Francis qui fait des super vidéos sur tout l'écosystème Laravel. Il était avant sur tout l'écosystème PlanetScale, sur du MySQL. Il a fait des formations sur le SQLite, sur Postgre et tout ça. Il revient avec une vidéo de 20 minutes. Tu m'as interdit de regarder cette vidéo. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il en est ?
Alors, il travaille sur un système qui s'appelle Fusion, qui n'est pas encore visible au niveau du repo, tout ça sur GitHub. C'est un système qui permet en fait, de faire du Vue avec et des balises PHP dedans, dans ton fichier vue, en fait. Tu peux avoir des balises PHP, comme la balise script, tout ça, et avoir du code PHP exécuté dedans. Dans cette vidéo, il fait la démo de son système. Donc, si tu avances un petit peu, on ne va pas regarder la vidéo, mais si tu avances un petit peu, il y aura peut-être un extrait de code où il a mis du PHP. Ah, évidemment, il y a des pubs. Alors, ça, c'est un truc, tu vois, en ce moment, sur YouTube, j'en peux plus, en fait. Il y a trop de pubs.
C'est ouais, un truc. On est d'accord. Compliqué.
Ah, voilà. Exemple, voilà, on l'a sous les yeux. Donc, tu as dans un fichier vue, podcast, du PHP qui est exécuté, en fait, et qui va aller chercher tout simplement la liste des podcasts ou le podcast sur ce modèle-là, et qui va s'afficher ensuite dans le template, en fait, la variable podcast est remplie par PHP et ensuite exécutée après dans vue. Donc,
en fait, tu es en train de me dire que ton fichier .vue, il sera, tu auras une espèce de rendu serveur parce que ton PHP, il va être obligé d'être exécuté côté serveur. Tu ne pourras pas l'exécuter côté client. Si?
Je ne sais pas exactement comment ça fonctionne parce que lui, il dit, justement, ce qu'il dit dans sa vidéo, c'est que ce n'est pas simplement un fichier exécuté par PHP. En fait, il a l'air d'extraire le code PHP pour l'exécuter. Je ne sais pas exactement comment ça marche et on ne le voit pas puisque pour l'instant, ce n'est pas encore public.
Okay.
Mais j'ai cru que c'était une blague en fait, au début. En fait, c'est Laravel Jutsu qui avait tweeté ça et je lui ai demandé si c'était une blague. En fait. C'était ouais. On n'est pas en avril, quoi, mais PHP dans Vue. Et en fait, non, c'est pas une blague. En fait, c'est vraiment. Ça marche. Ça fonctionne. Donc, ça s'appelle Fusion. Et donc, le nom est bien trouvé, puisque c'est une fusion des deux.
Ouais.
Mais je sais pas ce que t'en penses, toi.
Alors, moi, je fais pas de PHP, donc je vois pas trop. je vois pas le truc. Par contre, ce qui est sûr, c'est que. On vient casser la barrière entre en fait, le PHP et le front et le back en fait, sont en train de fusionner dans des composants. Et donc, ça, c'est plutôt intéressant et super facile. Et au lieu de mettre ta balise de script TS ou ta balise de script classique dans laquelle tu vas mettre normalement ton JavaScript classique, là, tu vas mettre du PHP. Potentiellement ça peut ouvrir beaucoup 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 de portes. Je suis curieux de voir l'implication. Je pense qu'en termes de sécurité, parce qu'on sait que voilà, ton PHP tu vas l'exécuter côté serveur, mais ton fichier vue normalement c'est plutôt côté front. Donc est-ce que tu as du build, est-ce que comment tu vas l'exécuter, à quel moment ça s'exécute côté serveur, mais ton côté vue JS il est où? Alors il est côté serveur ou, enfin tu vois, j'ai plein de questions. Donc là clairement je vais regarder la vidéo clairement, mais j'ai peur de ne pas avoir la réponse à toutes ces questions là
non, il n'y a pas toutes les réponses
tant que le projet n'est pas sorti. Est-ce que c'est une initiative par contre de sa part ou il y a un espèce de collectif qui travaille dessus? En clair, est-ce que c'est une lib qui l'a bootstrappé un peu dans son coin ou on est sur quelque chose d'un petit peu plus communautaire et donc souvent un petit peu plus solide aussi, quoi?
Non, je crois que pour l'instant il n'y a que lui en fait, puisque c'est pas public encore le repo, donc non, il n'y a que lui, il n'y a pas de communauté. Alors ils sont peut-être plusieurs à travailler dessus, mais non, c'est vraiment de son côté. Alors, après peut-être ça sera fusionné dans Laravel, enfin ça sera une sorte de package Laravel, mais je ne sais pas trop comment ça va être son business model, mais à voir, à suivre. Après c'est des choses qui sont déjà possibles hein, dans Laravel avec Livewire Vault, où tu peux avoir des components avec du Livewire et du PHP. Donc on a déjà des choses possibles qui existent, mais là c'est encore, ça va beaucoup plus loin où carrément t'as une balise PHP dans le truc, donc
ouais,
à voir comment ça fonctionne. Ouais, mais c'est vrai que les questions que tu soulèves là, est-ce que c'est exécuté côté serveur machin, on sait pas encore.
Ok. Pour l'instant. Ouais, je suis super curieux parce que ça peut être vraiment super.
Après, c'est intéressant hein, de coupler ça avec un framework qui est quand même assez complet pour tout ce qui est base de données, tout ça, d'aller récupérer directement les data et t'as plus besoin de faire des fetch tout ça dans l'application. Ça reste intéressant. Hein.
Clairement. Allez,
je suis quand même déçu que tu sois pas contre quoi. Non, c'est plutôt ça va.
Non, en fait, je suis vraiment super curieux. Tu vois, je suis vraiment super curieux. Je veux voir et En fait, quel bénéfice ça amène sur la table, tu vois. Après, clairement, tout de suite, moi, je te dis tout de suite, je ne suis pas un développeur PHP, donc la probabilité que j'utilise ça est plutôt faible. Mais néanmoins, pour des personnes qui font du Laravel, et en tout cas, si je devais passer sur l'écosystème PHP, je pense que j'irais sur Laravel, tu vois, voilà. Parce qu'il y a tout un écosystème qui est vraiment super DX friendly, tout ça, trop bien, tu vois. Et je me dis que déjà, ce que tu m'as montré avec LiveWire, tout ça, c'est ouf, quoi. C'est vraiment beaucoup plus rapide, c'est facile. Et là, il passe encore à un niveau supérieur. Par contre, ça, en bon dev qui se respecte, tu vois, ça me pose plein de questions. Mais comment ça marche, quoi ? Explique-moi comment ça marche. J'aime bien la magie, mais j'aime bien comprendre la magie, tu vois. Et là, pour l'instant, ça m'amène plus de questions. Et j'ai pas l'effet waouh parce que bah, je suis pas dev PHP, quoi. Je suis désolé okay.
Non, non, c'est bien, bonne réaction, c'est bien.
Allez, petit tools, on bascule dans la section tools, petite librairie sympa qu'on a découvert. Là, c'est JSON Tree, mais Tree avec point EE à la fin. JSON. Et donc, c'est un outil qui nous permet de visualiser les JSON, surtout les JSON en fait, à rallonge avec un objet à l'intérieur d'un objet avec un tableau à l'intérieur. Là, en fait, on a une sorte de diagramme qui vient se générer automatiquement.
C'est pas mal.
Ouais, et c'est plutôt propre. Et je pense, après nous on a l'habitude de bosser avec des JSON, mais pour des personnes qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ce type de fichier là, c'est hyper barbare, c'est vraiment violent. Et là en fait, le fait de visualiser, on voit quand même le truc plutôt.
Ouais, puis c'est surtout que tu peux, quand tu as un JSON comme ça que tu veux traiter et afficher les données, tu sais jamais sur quoi. Voilà, et ben là t'as vraiment le détail des choses, tu vois, le power, tu sais que c'est un tableau, etc. Donc, c'est facile d'aller récupérer les datas parce que tout est clair, en fait, au niveau du schéma. Là.
Et tu peux l'exporter en image en plus. Donc, potentiellement, ouais,
Moi, j'adore.
C'est plutôt pas mal. une autre outil, on sait qu'aujourd'hui, la RGPD obligeant à nous donner, à nous surinformer sur l'utilisation des cookies. Nous, devs, on se doit d'implémenter, en fait, d'aller chercher le consentement pour l'utilisation de ces cookies. Et là, tu nous présentes une solution qui est cross navigateur, mais surtout qui est écrit en JavaScript pur, donc qui est totalement framework agnostique et qui est plutôt stylé pour justement aller chercher cette autorisation, le consentement. Merci.
Ouais. Non, alors c'est pas une nouveauté, Cookie Consent. Moi j'utilise depuis un petit moment la version 2, la version 3 est sortie il y a quelques temps et en fait ce projet est vraiment pas mal. Facile à implémenter et il est très esthétique, c'est-à-dire que la pop-up, tout ça, la banner, tout ça est vraiment bien faite et tout ça. Et c'est plutôt light, le code, c'est du JavaScript vanilla. Donc voilà. Si vous cherchez un système de consentement de cookies sur le site, je vous encourage à utiliser parce que c'est vraiment un produit qui est bien fait, bien codé. Et en plus, ça vient avec. Alors déjà, le CSS, tu peux le customiser, tu vois, il y a des variables CSS pour changer les couleurs. Donc c'est vraiment bien codé. Hein. Franchement, il y a rien à dire. Et il y a un autre truc qui vient avec, c'est le iframe manager. Je sais pas s'il y a le lien dans le README là, mais un système d'iframe aussi qui fonctionne avec lui et qui permet en fait de gérer. Parce que en fait, quand tu utilises des cookies sur un site et que tu mets des vidéos YouTube, par exemple, voilà, il y a l'iframe manager qui fonctionne avec. Donc c'est un script en plus à rajouter. Exemple, quand tu arrives et qu'on te dit il y a des cookies, on va te dire il y a des cookies YouTube. Et tu vas dire non, moi je veux pas des cookies YouTube. Officiellement, normalement, tu dois bloquer les vidéos YouTube si tu as refusé les cookies YouTube. Et donc l'iframe manager permet de faire ça en fait, de bloquer l'iframe de YouTube avec la vidéo si tu as refusé les cookies YouTube. Donc voilà, il y a tout ce système qui est vraiment bien fait et franchement, moi je l'utilise sur tous les sites et franchement, ça marche nickel. C'est plutôt light, bien codé, facile à rajouter des services et tout. Donc, voilà.
Et facile à custom, tu dis.
Ouais, et facile à customiser parce qu'il est bien codé. Surtout la version 3 est plutôt pas mal. Donc tu peux, tu vois, la UI customisation, normalement, tu as des variables CSS, tout ça. Donc c'est vraiment, vraiment top.
Propre. Ouais, top.
Ouais, très propre.
Eh oui, parce que l'Europe nous oblige ça, donc il faut être gentil avec l'Europe. Et donc il faut plus bien être ça. Compliant. Yes, ça marche. Alors, là, on va parler de JS Scanify ou JScanify. Tu m'as présenté ce truc-là. Je suis hyper emballé. En fait, c'est une librairie qui, on va lui donner à manger une image un peu pétée d'un document. On va identifier les quatre points sur ce document-là et en fait, il va nous ressortir l'image à plat. En fait, et donc, on n'a plus besoin de faire une image parfaite. En fait, on va utiliser cette librairie qui nous permet en fait de rectifier, de corriger tous les angles possibles sur une prise de photo. Et donc, ça c'est juste trop, trop bien, quoi. On pense pour créer des applications pour récupérer, scanner des tickets de caisse ou des choses comme ça. Là, on peut directement scanner et après, on le traite. Donc, c'est super puissant et c'est en JS pur.
Ouais, c'est le JS. Ouais, ça utilise Canva, je crois, et à partir d'une image, il peut scanify, de toute façon, c'est ça. Et après, tu peux extraire le document de l'image et tout. C'est vraiment pas mal.
Puissant. C'est super puissant. Après, on vient coupler ça avec une reconnaissance caractérielle ou un LLM de notre choix et on peut en fait lui envoyer l'image. Donc même si on n'a pas pris une image parfaite, ça va la corriger et après on pourra la traiter. Quoi.
Et je me demandais, tu vois, quand tu as les petits points là, les petits points bleus là, ce que alors j'ai pas testé les corner points, ça, est-ce que tu peux les bouger en fait pour modifier ou corriger un petit peu? Ça doit être possible, je pense. Que c'est pour ça que ça existe.
Oui.
Donc ça va assez loin quand même. Hein.
Ouais, c'est assez poussé et c'est plutôt impressionnant. Top. Top, top.
Yes.
Allez, on bascule dans la section un peu IA et on va parler de Cerebra qui vient intégrer le chat de chez Mistral, donc qui est le chat GPT français de la société Mistral, on va dire. Mistral, boîte française, même s'il y a beaucoup de fonds américains où ils sont partis aux États-Unis et tout ça. Mais ça reste quand même Frenchy. Et donc, Mistral, en fait, est rentré sur de l'inférence chez Cerebra, c'est ça?
Ouais, c'est ça. Alors, on en a parlé, Cerebra, dans l'épisode précédent. Voilà. On a bien fait d'en parler, puisque juste derrière, Mistral annonce qu'ils sont passés sur Cerebra pour. Alors, il y a l'application Le Chat est devenue assez populaire sur le store français, dans les téléphones, dans les iPhones, tout ça. Donc, est propulsée a priori par Cerebra. Et donc, ils en font le plus rapide, le chatbot le plus rapide par rapport à ChatGPT, tout ça. Donc, c'est vraiment des réponses ultra rapides. Et donc Cerebra, on sait toujours pas vraiment comment ça marche, mais comme tu le disais, certainement ils ont fait leur puce ou quelque chose comme ça pour que ça réponde très rapidement.
Alors Cerebra, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est je peux parler pour Grok parce que j'ai lu et tout.
Ça. Et donc ça va être le même système, hein, c'est obligé quoi.
Intéressant. Très
et donc de toute façon là Mistral si vous avez suivi un petit peu l'actualité, très très poussé par le gouvernement français en tant qu'acteur français, comme tu dis il y a 60% d'investissement américain avec Microsoft tout ça, mais ça reste une boîte française quand même et c'est-à-dire que le gouvernement français a décidé que c'était leur tête de file pour l'IA, donc vraiment poussé, acteur très très en plus ils ont fait plein d'annonces dernièrement,
connu et reconnu.
Ouais. Ouais.
Top.
Voilà.
Et quitte à utiliser du LLM, jouer avec le chat, Mistral.
Oui, c'est ça.
Yes. Allez, on bascule sur Hugging Face qui a redesigné sa page Spaces, c'est ça?
Ouais, alors assez incroyable, dernièrement, ça fait une semaine, 10 jours. C'est comme si les gens avaient découvert Spaces de Guinface alors que ça existait depuis un moment. Je comprends pas ce qui se passe. Alors peut-être qu'ils ont fait des annonces Guinface au niveau des médias, des journalistes, tout ça, et d'un coup ils ont découvert le Spaces. Mais il y a certainement eu cette. En fait, ils se refactorisent un petit peu la page. Je sais plus exactement combien. Je crois que c'est 4. Alors c'est 400 000. Ouais, je crois que c'est 400 000 apps disponibles sur le Spaces. Donc quand on parle d'app, en fait, c'est des mini-apps qui reposent sur un modèle qui est existant dans Hugging Face, et vous allez pouvoir le tester, faire des choses, etc. Donc ça peut, voilà, vous pouvez l'utiliser comme ça, gratuitement. Et ils ont refait la barre de recherche avec les filtres, tout ça. Et donc, je te laisse le dire, hein, comment
Eh ben,
fonctionne la
ils ont
barre de recherche?
utilisé une barre de recherche, et qui dit barre de recherche dit la meilleure expérience de recherche possible, c'est avec Melisearch, évidemment.
Voilà.
Melisearch.
Donc, tu peux faire des recherches maintenant hyper rapides avec l'IA, tout ça. Donc, c'est assez puissant.
Top. Et Melisearch, possibilité de faire aussi bien du search, donc c'est-à-dire du full text search, donc chercher les mots, mais aussi de la sémantique, c'est-à-dire basé sur une représentation vectorielle. Et le mix des deux, ils ont appelé ça de la recherche hybride. Donc c'est à la fois une recherche sémantique et une recherche full text. Et on mélange les deux. Et après, dans les résultats de recherche, en fait, on va mettre plus ou moins de sémantique. Donc c'est très très puissant. Par contre, oui, pour revenir sur Spaces, clairement, la page est beaucoup moins austère et beaucoup plus friendly. Et donc, ils ont redesigné la page, ils ont communiqué sur ce redesign de page, et tout de suite, elle est un petit peu plus non développeur friendly. Donc voilà, toutes les personnes qui veulent utiliser de la génération d'images, voilà, pour le coup, c'est beaucoup plus facile, et ils ont réussi, en fait, à rendre l'application, en fait, directement utilisable par un simple clic, alors qu'avant, peut-être qu'on avait ce côté un petit peu plus tech dev, quoi. Donc, ils ouvrent large. En fait, leur interface UI leur permet, en fait, d'ouvrir un petit peu plus leur fonctionnalité aux non-dev. Donc,
Ouais, ils
top.
l'ont appelé l'App Store IA, en fait. En gros, ils le
Ouais.
nomment un petit peu comme ça. Bah, The IA App Store, je sais pas ce qui est marqué en haut, j'en vois pas, mais
C'est
c'est.
IA App Directory, donc
Ouais, c'est ça. Donc, tu vois.
l'annuaire des apps IA, quoi.
Voilà, comme
Qui
tu dis, ils ont
est.
voulu rendre ça plus clair pour les personnes non techniques, en fait.
Ouais,
Donc,
c'est
le
clair.
fait de pouvoir utiliser des modèles comme ça gratuitement,
Ouais,
pour différentes choses.
c'est vraiment ça qui. Enfin, c'est vraiment clairement comme ça que je le vois. Et bah oui, ils font une communication marketing sur les réseaux, tout ça, pour vendre et pour mettre en avant leur interface. Et on le rappelle, tu as des tokens gratos que tu peux utiliser, quoi. Donc, si c'est juste pour faire une image, clairement, tu vas là-dessus, tu génères ton image, tu as ton image, et voilà. Et après, si tu veux industrialiser et en faire une application, bon, là, tu vas être obligé de déployer ton modèle sur ta machine ou machin, ou payer, mettre ta carte bleue pour payer à la génération. Mais pour générer 3-4 images comme ça, ou tester des modèles, c'est juste hyper facile et simple à mettre en place. C'est vraiment
Ouais.
top, quoi.
Après, c'est
Vraiment.
toujours un petit peu plus lent parce que forcément, bah, c'est gratuit.
Ah
Donc,
ben oui,
mais
mais t'es pas prioritaire. En même temps,
voilà.
heureusement que les
C'est
mecs
normal.
qui payent et qui mettent la carte bleue sont prioritaires sur toi. C'est normal.
Et justement, concernant, si tu veux quelque chose de plus rapide, ils ont sorti une nouveauté. Alors, jusqu'à maintenant, tu pouvais utiliser uniquement l'inférence avec le Hugging Face, leur serveur à eux.
Leur
Donc, tu
propre
avais.
machine, les machines de chez Hugging Face.
Voilà, donc tu avais une utilisation qui était en version gratuite, déjà tu pouvais l'utiliser, mais tu étais quand même limité. Et après, si tu passais sur un compte payant, tu avais beaucoup plus d'utilisation possible. Et donc là, ils viennent de rajouter quatre providers externes à Hugging Face où tu peux les utiliser directement. Donc, les quatre providers sont disponibles, tu peux les utiliser, tu fais un compte chez eux. Ensuite, tu utilises la clé API de ce provider et tu peux l'utiliser directement de Hugging Face ou en local avec le code Hugging Face. Tu rajoutes pareil ta clé API. Donc, c'est totalement transparent. Donc, tu peux gagner en vitesse, tout ça, parce qu'ils ont des serveurs peut-être un peu plus rapides. Et derrière, pour l'instant, Hugging Face ne prend aucun argent
sur ce provider.
C'est juste, voilà, aucune commission pour le moment. Voilà, ça, peut-être ça changera, mais pour l'instant, c'est vraiment totalement transparent. C'est, voilà, ça utilise l'inférence des providers et point final.
Ouais, donc pour le coup, c'est super fair de. Enfin, c'est, je trouve ça super sympa de leur part parce que eux, ils se concentrent sur devenir le GitHub des modèles IA, on va dire.
Ouais.
Avec le Spaces, ils viennent prendre aussi gérer un espèce de catalogue avec toutes les possibilités. Donc voilà, on donne accessible les datasets et tout ça, ok. Mais si tu veux utiliser ta puissance machine sur un autre provider, ils te donnent accès à ça. Alors que eux, ils ont aussi un business model où ils vendent du temps de seconde, oui. Quoi. Donc, clairement, ils se coupent aussi un peu de revenus, mais ils se positionnent quand même en tant que leader sur l'hébergement des modèles, l'hébergement des datasets et tout ça. Donc, c'est vraiment, enfin, moi, je trouve ça hyper hyper fair play. Et je pense qu'ils ont une stratégie aussi à long terme, mais ils veulent pas faire que de la puissance de calcul, quoi. Ils veulent faire bien plus que ça. En tout cas, c'est ce que ça démontre. Et donc, je trouve que c'est top parce que ils assoient en fait une sorte de domination dans l'écosystème IA avec tous ces modèles, ces datasets, ces spaces. Et ok, tu veux brancher ton inférence et tu veux donner ta puissance machine à un autre opérateur, pas de problème, vas-y, tu branches et on t'a facilité le système. Et au final, tu continueras à utiliser Hugging Face et c'est ce qu'ils veulent. Très malin, très 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 malin de leur part, clairement.
Donc super quoi, on a beau dire ce qu'on veut, on a quand même Mistral et Hugging Face français qui sont quand même leaders dans certains domaines, donc c'est cool quoi.
Ce qui moi m'attriste, c'est que c'est des boîtes qui sont pas en France parce que ils ont fui l'écosystème français pour des raisons qui leur sont propres, mais c'est une réalité quoi. Et aujourd'hui ils sont plus même s'ils ont des bureaux peut-être en France, la majorité des fonds ou tout l'écosystème business il est aux US. C'est comme ça. Ça fait partie du jeu. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cet épisode du mois de février, Patrick ?
Ben non, écoute, c'était cool. Encore merci aux contributeurs, aux sponsors. Et merci d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode.
Allez, on vous dit à bientôt. Ciao, ciao.
Ciao.